Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour à Paris après deux émissions réalisées à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus. Nous sommes vendredi et vous connaissez le principe. Dans une demi-heure, la Libre Antenne, vous allez pouvoir commenter tous les événements qui vous ont marqué cette semaine. Tous les sujets nous intéressent, donc appelez-nous, rejoignez-nous, venez lancer le débat en direct sur RFI au 33 9 693 693 70. On parlera... si j'en crois les appels qui arrivent au standard et sur Facebook, on parlera de la République démocratique du Congo, du Mali, du Soudan, de la crise politique au Bénin, mais aussi de la contestation en Guinée, avec cette perspective d'une éventuelle modification de la Constitution. Voilà donc quelques-uns des sujets qui nous arrivent. D'ici là, vous êtes les bienvenus, vous nous appelez au standard et nous vous donnerons la parole. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser à la colère des Hongkongais. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Libreville, au Gabon. Vous avez plusieurs questions justement sur la situation à Hong Kong.
Oui, bonjour à toute l'équipe de RFI qui a bien un travail énorme.
Merci de vos encouragements.
D'accord. Des manifestations massives ont éclaté cette semaine à Hong Kong contre un projet de loi visant à autoriser l'extradition, notamment vers la Chine continentale. Malgré le report du vote du projet de la loi, la mobilisation a continué. Cette loi vise à permettre l'extradition de personnes recherchées. Pourquoi les Hongkongais se sentent-ils menacés?
Oui, ils étaient d'ailleurs 1 million dimanche dernier à manifester dans les rues de Hong Kong. Mercredi, ils étaient des dizaines de milliers rassemblés autour du Parlement pour dire non à ce projet de loi. Bonjour Florence de Chancy.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous, Florence de Chancy, correspondante de RFI à Hong Kong. La question de notre auditeur est pertinente, c'est vrai. Pourquoi ce texte, qui est destiné finalement à permettre l'extradition de personnes recherchées pour des actes criminels, fait-il descendre dans les rues de Hong Kong autant de personnes?
Mais effectivement, c'est toute la complexité de ce sujet. C'est sans doute pour ça aussi que les Hongkongais eux-mêmes ont mis du temps à se mobiliser, parce qu'on parle de ce projet de loi en fait depuis le mois de février. Si je vais vous répondre en une phrase, je vous dirais c'est parce que les Hongkongais ont peur de la Chine et qu'ils rejettent le modèle chinois qui leur est malgré eux imposé à plus ou moins court terme, puisque en 2047, Hong Kong va entièrement normalement rejoindre la Chine. Pour le moment, on est sous le principe d'un pays, deux systèmes. Et comme vous dites, cela ne devrait pas être un problème si vous n'avez rien fait de mal en Chine. Or justement, c'est parce que cela touche à l'indépendance des deux systèmes juridiques que cela fait peur, car si la Chine peut réclamer des Hongkongais ou même des citoyens de passage, hein, et ça touche les étrangers aussi, à Hong Kong, cela nie fondamentalement le principe de un pays, deux systèmes.
Oui. Enfin, l'état de droit est garanti à Hong Kong, Florence.
Absolument. Et justement, c'est bien ça le nerf de la guerre. Car à Hong Kong, même si vous commettez certains crimes, vous allez être jugé, mais vous allez être jugé justement selon des tribunaux qui ont des standards internationaux. Or, tout le monde redoute d'être jugé en Chine, car malheureusement, l'état de droit en Chine est loin d'être satisfaisant. Au début d'ailleurs, quand le gouvernement a proposé cet amendement, c'est intéressant d'observer que ce sont les partis de l'establishment qui défendent les hommes d'affaires et qui sont globalement pro-Pékin qui ont émis le plus de réserves, parce que c'est eux qui avaient le plus peur, parce que comme chacun sait, c'est très difficile de faire des affaires en Chine sans un minimum de corruption. Et donc c'était d'abord les hommes d'affaires qui se sentaient potentiellement visés par ce traité d'extradition, et c'est d'ailleurs à la demande du grand parti pro-Pékin qui s'appelle le DAB que les premiers changements ont été apportés à ce projet de loi. Un certain nombre de crimes de col blanc, par exemple, ont été enlevés à la liste des crimes passibles d'extradition.
Et par la suite, il y a eu d'autres aménagements.
Absolument, il y a eu plusieurs étapes d'aménagement. Et finalement, après la grande manifestation de dimanche dont vous parliez tout à l'heure, le gouvernement a même accepté de rendre contraignante une garantie sur le respect des droits de l'homme. dans le pays où le suspect serait extradé, mais là on s'inquiète évidemment essentiellement de la Chine. Donc cette condition pourrait devenir obligatoire, mais comme l'ont fait remarquer les opposants à ce texte, obligatoire ou pas, quand Pékin réclamera à Hong Kong d'extrader certaines personnes, comment Hong Kong pourra-t-elle exiger des garanties sur le respect des droits de l'homme de ces personnes, alors que tout le monde sait que la Chine a sa propre interprétation, façon de parler, des droits de l'homme. Donc en fait, plus le gouvernement a expliqué les intentions de ce projet de loi, plus les gens ont compris, plus ils ont compris, plus ils ont eu peur que cela anéantisse la sécurité et les libertés dont Hong Kong jouit, et qui font que Hong Kong est encore une société fondamentalement différente de la Chine voisine.
Oui, d'ailleurs, les principaux organisateurs des manifestations appellent à un nouveau rassemblement ce dimanche contre le projet de loi, et les manifestants appellent même à une grève générale lundi prochain. David, vous aviez une dernière question ?
Oui, oui. La dirigeante de Hong Kong s'est dite déterminée à faire adopter cette loi. Est-il envisageable d'observer un recul de l'exécutif sur cette question ?
Ah, c'est la question que tout le monde se pose, j'imagine, Florence, à Hong Kong.
Exactement. Et la réponse, c'est a priori non, pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est que Carrie Lam, la chef de l'exécutif, est une femme très têtue. C'est une qualité et des défauts pour quelqu'un, une femme politique. Mais elle a dit et redit que ce texte passerait. Et même après la manifestation d'un million de personnes dans la rue, elle n'a même pas envisagé de décaler l'examen du texte. Au contraire, la date du vote au Parlement a été avancée d'une semaine. Et en plus, elle a reçu l'appui de Pékin. Donc tout cela semble indiquer qu'elle ne peut plus reculer. Cela dit, comme vous le mentionniez, Juan, les opposants ne désarment pas non plus et ils semblent également déterminés qu'elle, si pas plus. Ils ont donc appelé à une nouvelle manifestation dimanche. Il y a un appel à la grève générale lundi. La pression arrive également des États-Unis qui ont menacé de revoir les relations commerciales avec Hong Kong si cette loi était votée. Et il faut aussi garder à l'esprit les conséquences politiques à court et moyen terme d'un tel affront à la population de Hong Kong. Donc même si très improbable, je n'exclurais pas totalement un recul de l'exécutif. Un premier geste serait évidemment déjà de reporter à la rentrée prochaine l'examen de ce texte plutôt que de le précipiter.
À suivre donc. Merci beaucoup Florence en direct de Hong Kong. David, on vous souhaite une belle journée à Libreville. Ici à Paris, il est déjà 10h18. On va très vite repasser au standard au 33 9 693 693 70 avec des questions sur le Mali après l'attaque de Soban qui a fait 35 morts. Bonjour Momouni.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous vous écoutons.
Merci pour l'appel. Un village d'Ogon du sud du Mali a été victime d'une attaque. Le bilan provisoire s'élève à 35 victimes. Les soupçons pèsent sur le groupe terroriste Katiba Massina. Comment comprendre que cette attaque n'ait pas été revendiquée? Peut-on parler d'un cycle de vengeance?
Ah, effectivement, qui est derrière cette attaque, l'attaque de Soban, ce village du pays d'Ogon au centre du Mali? Bonjour Serge Daniel.
Bonjour.
Correspondant de RFI au Mali, notre auditeur a raison de le rappeler, cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Certes, le gouvernement pointe du doigt, je cite, des terroristes, mais à aucun moment le gouvernement fait allusion au moindre groupe.
Ça c'est vrai, parce que en plus, généralement, les groupes djihadistes, comme vous le savez, par différents canaux, revendiquent les attaques. Mais là, dans le cas de Soban, non. Et c'est toute la complexité de la situation. Qui tue qui ? Ou qui a tué qui? Alors la non-revendication, en tout cas pour le moment, est peut-être une stratégie des auteurs pour déclencher, attiser les conflits intercommunautaires. Soban, vous le savez, est un village, habité par des catholiques. Tous ont quasiment le même nom de famille. C'est la famille Dara. Ils sont de la communauté Dogon. Et sans grand recul, on pourrait penser que c'est une autre communauté qui est responsable. Et c'est probablement pourquoi le président malien se rendant ce jeudi sur place, après le Premier ministre, a demandé aux uns et aux autres d'éviter les amalgames. Et l'autre constat, c'est la méthode utilisée, la méthode d'opération est sans doute djihadiste, ça c'est sûr. Là encore, les experts expliquent que c'est peut-être aussi pour brouiller les pistes, donc il faut attendre la fin des enquêtes pour savoir et voir aussi s'il va y avoir ensuite une revendication.
Oui. Certains parlent d'une vengeance après l'attaque du 23 mars dernier à Ogassogou. On se souvient, plus de 160 villageois avaient été tués lors de cette attaque. Peut-on parler à ce moment-là d'un cycle de vengeance, comme nous le demande Moumouni ?
La certitude d'abord, c'est un acte barbare. Maintenant, est-ce que c'est une vengeance? Il faut être aussi prudent, là aussi également, Moumouni, il faut être prudent. Les enquêtes sont en cours et le diront avec précision, puisque le procureur antiterroriste s'est rendu sous les lieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se prononcer de manière définitive sans l'aboutissement d'une enquête, parce qu'il y a ce que vous appelez, la technique du billard à trois bandes, poser un acte pour en attribuer la paternité à l'ennemi.
Et on aura l'occasion d'en parler dans la Libre Antenne. Nombreux sont les Maliens à souhaiter s'exprimer après cette attaque de Soban dimanche dernier. Vous aviez une dernière question, Moumouni ?
Oui, effectivement. Quelle est la stratégie que le gouvernement malien compte mettre en place pour lutter contre ce genre d'attaque ?
Ah, Serge Daniel.
Alors, ce jeudi, le président malien a encore parler de désarmer ceux qui détiennent illégalement les armes, s'est rendu sur place, et c'est une des solutions. Mais, Moumouni, ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas la première fois que le gouvernement, le président de la République, dit qu'ils vont désarmer ceux qui sont illégalement armés. Ça veut dire que, quand même, la stratégie gouvernementale pour faire face à la situation, pour le moment, n'est pas la bonne, ou du moins ne porte pas fruit. Je cite un rapport de l'ONU, plus de 250 civils ont été tués en 3 mois dans le centre du Mali. Et le problème, effectivement, ce serait de désarmer ceux qui sont illégalement armés. Et bien, pour le moment, le gouvernement n'arrive pas à faire passer le fil par le chat d'une aiguille, c'est-à-dire le trou d'une aiguille.
Oui, désarmer ces fameux groupes d'autodéfense. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Thiébilé Dramé, plaide, lui, pour une présence accrue de l'ONU dans le centre du pays, autrement dit, renforcer la présence de la MINUSMA dans le centre du Mali, aux côtés, évidemment, des forces maliennes. Merci beaucoup, Serge Daniel, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Moumouni, qui nous appelait de Cotonou, où il est 8h23. Rodrigue, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Brazzaville, Rodrigue, et vous avez des questions sur la libération du journaliste Ivan Golunov en Russie.
Oui, effectivement, Juan. En Russie, 400 manifestants ont été arrêtés après avoir obtenu la libération du journaliste Ivan Golunov, victime de fausses accusations de trafic de drogue. Comment expliquer que ce journaliste ait été libéré alors que 6 autres sont encore détenus? Avec cette libération, peut-on parler d'une avancée du droit de la presse?
Ah, bonne question. Nous avons contacté Daniel Valo, correspondant permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Il a fallu donc 4 jours de protestation, de mobilisation de la société civile pour que le pouvoir cède et finisse donc par libérer le journaliste d'investigation Ivan Golunov. Comment expliquer cette libération aussi rapide et comment expliquer que d'autres journalistes, eux, sont encore détenus ?
Alors, la situation d'Ivan Golunov est particulière parce qu'il y a eu justement une mobilisation sans précédent en Russie, à la fois des médias et de la société civile. Les autres journalistes qui sont détenus en Russie, dont parle Reporters sans frontières, n'ont pas eu ce soutien-là et ils appartiennent souvent à de petits journaux locaux. Enfin, la plupart d'entre eux n'ont pas été piégés pour trafic de drogue, comme c'est le cas d'Ivan Golunov, mais ils ont été accusés d'extorsion d'argent par les personnes visées par leurs articles. C'est une façon d'ailleurs tout aussi efficace de se débarrasser en Russie d'un journaliste embarrassant. Malheureusement, le cas de ces 6 journalistes n'a tout simplement pas été médiatisé comme celui d'Ivan Golunov. Il faut aussi préciser que la fabrication de preuves dans l'affaire Golunov a été particulièrement grossière et malhabile, et c'est ce qui a aussi contribué à ce dénouement rapide. Et puis personnes qui ont voulu se débarrasser du journaliste en sont pris à quelqu'un qui appartient à un média somme toute assez important en Russie, pas tant par la taille de sa rédaction, par son audience, que par sa réputation, parce que Medusa, c'est un média réputé, connu pour être l'un de ces rares médias encore critiques vis-à-vis des autorités russes.
Et peut-on parler d'une avancée du droit de la presse après la libération d'Ivan Golunov ?
Écoutez, c'est difficile à dire, même s'il sera évidemment sans doute plus difficile désormais de se débarrasser d'un journaliste en Russie. Mais curieusement, ce dont on parle surtout ici en Russie, ce n'est pas tant du droit d'informer, du droit de la presse, mais de la façon dont Ivan Golunov a été piégé, c'est-à-dire l'utilisation de cette accusation de détention et de trafic de drogue par la police. C'est vraiment le sujet dont tout le monde s'est emparé ici depuis que le journaliste a été libéré. On parle bien sûr d'une victoire de la société civile, d'une victoire d'un média indépendant sur le Kremlin, mais on parle d'abord et surtout de cette fameuse loi sur les stupéfiants qui est réellement utilisée à tort et à travers, selon ses détracteurs en tout cas, par les policiers russes. Des policiers qui s'en servent pour piéger des personnes innocentes, comme ce fut le cas avec Ivan Golunov, ou alors tout simplement pour gonfler leurs statistiques.
Ah, effectivement. Rodrigue.
Oui, Roman.
Vous avez une autre question.
Oui. Comment le régime justifie-t-il les arrestations arbitraires des manifestants qui réclamaient la libération d'Ivan Golunov?
Ouais. Là aussi, on a du mal à comprendre, Daniel Valot. Au lendemain de la libération de ce journaliste d'investigation, une marche de soutien a eu lieu à Moscou et plus de 400 personnes ont été interpellées.
Oui, alors une marche de soutien pour finalement célébrer la libération d'Ivan Golunov, bien entendu, puisqu'elle a eu lieu au lendemain de sa disculpation. Mais surtout, les manifestants voulaient demander d'abord une enquête en profondeur sur ce qui s'est passé et puis une réforme en profondeur du système policier et judiciaire en Russie pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors pourquoi ces arrestations? Eh bien parce que tout simplement la manifestation n'était pas autorisée, comme c'est souvent le cas en Russie. Donc toute personne qui se trouvait sur le trajet de la manifestation, était susceptible d'être embarqué par la police. C'est une pratique extrêmement habituelle en Russie. Simplement, il y a des manifestations où les policiers n'arrêtent pratiquement personne ou peu de monde, et il y en a, ce fut le cas mercredi, où il y a un très grand nombre d'arrestations. On ne sait pas d'ailleurs très bien comment l'interpréter. Mercredi, il s'agissait vraisemblablement pour les autorités d'envoyer un message de fermeté à la société civile après la libération du journaliste. Tous ceux qui ont interprété cette libération comme un signe d'assouplissement ou même d'affaiblissement du pouvoir russe en sont pour leurs frais. La parenthèse est refermée, c'est ce que signifie ce chiffre impressionnant de plusieurs centaines d'arrestations.
A-t-on répondu à vos questions, Rodrigue?
Oui, je suis satisfait.
Bonne merci journée moi. Et merci de nous écouter à Brazzaville. Daniel Valot, bonne journée à Moscou. Il nous reste deux petites minutes, ça va être court. Thomas Moulin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste du service des sports de RFI, on accueille Stéphane qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Ok. Et le Portugal a récemment remporté la Ligue des Nations, une nouvelle compétition de l'UEFA. Pour autant, ça ne lui permet pas de se qualifier à l'Euro 2020. Pourquoi n'est-il pas qualifié de FIFA malgré cette victoire face aux Pays-Bas? Et ensuite, sachant que la CELSAO a fait deux matchs nuls dans les premières phases de qualification, a-t-elle toujours des chances de se qualifier pour l'Euro 2020.
Ah, quel avenir pour le Portugal, Thomas Moulin. C'est vrai que le Portugal a certes remporté la Ligue des Nations, mais ce titre ne lui offre pas la certitude de disputer l'Euro 2020. Le règlement est quand même compliqué.
Oui, le titre du Portugal dans cette toute nouvelle compétition, il est uniquement honorifique. En fait, cette phase finale, ce Final Four, comme l'appellent les Anglais, il n'a aucune influence sur le processus de qualification pour l'Euro. Seule la phase de groupe compte et permet uniquement de déterminer les barrages.
Des barrages auxquels les Portugais sont assurés de participer, rassurez-nous.
Oui, en effet, en tant que vainqueur de son groupe de Ligue des Nations, le Portugal est assuré de disputer les barrages au cas où il ne terminerait pas dans les deux premiers de son groupe d'éliminatoire. 15 autres sélections sont dans ce cas.
Si on comprend bien, donc, cette Ligue des Nations, c'est un peu une formule gagnant-gagnant.
Oui, exactement. En fait, ça permet aux grandes équipes, c'est une sécurité en plus pour participer à l'Euro, et pour les petits, ça augmente considérablement leurs chances de qualification. Par exemple, la ligne D, hein, c'est la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Biélorussie, l'une de ces quatre nations est assurée de participer à l'Euro.
Et la CELSAO, qui a fait donc deux matchs nuls lors des deux premiers matchs de qualification, a-t-elle une chance de se qualifier?
Alors bien sûr, donc par la voie des barrages, comme on vient de le dire, mais rien n'est perdu dans leur groupe de qualification. Il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire pour Cristiano Ronaldo et ses partenaires. Deux contre-performances à domicile contre l'Ukraine et la Serbie, mais a priori c'était les adversaires les plus dangereux dans ce groupe B. Ils n'ont pas encore affronté les deux maillons faibles, la Lituanie, le Luxembourg, rien d'insurmontable a priori. Il va falloir cravacher pour attraper l'Ukraine en tête du groupe. Les Portugais pour l'instant quatrième, mais que deux points de retard sur le second, avec deux matchs en moins à disputer, donc la situation est loin d'être urgente pour les champions d'Europe.
Et les prochains déplacements du Portugal, ce sera le 7 et 11.